pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
C'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 15 mars 2023, lors de l'examen du projet de loi immigration, a été voté au Sénat un amendement visant à supprimer l'aide médicale d'État au profit d'une aide ne couvrant uniquement que les soins urgents et vitaux. Suite à une proposition du Parti Les Républicains de supprimer l'aide médicale d'État pour la transformer en aide médicale d'urgence, la question de l'AME figure dans le texte sur l'immigration étudié au Sénat à partir de ce mois de novembre. Cette attaque contre ce dispositif n'est pas la première et elle s'inscrit dans une série de réformes qui visent à spécifier et restreindre progressivement l'accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière en France. Exclusion de la sécurité sociale en 1993 avec la loi Pasqua qui introduit une condition de régularité de séjour, isolement au sein de l'aide médicale d'État, conçue comme dispositif spécifique aux sans-papiers dans les années 2000, restriction de l'offre de soins et de son accès via des réformes successives qui n'ont cessé de dégrader cet outil de soins. Aujourd'hui, l'aide médicale d'État reste le seul véritable filet de santé publique pour les étrangers en situation irrégulière. Alarmé par l'évolution que prendra le projet de loi immigration, des professionnels du centre hospitalier de Saint-Denis se mobilisent pour pouvoir continuer à soigner les patients et les patientes. Dans ce contexte, se tenait le 26 septembre dernier, à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, une réunion d'information et d'échange sur l'avenir de l'aide médicale d'État. Et dans l'émission de ce jour, nous vous proposons l'écoute de plusieurs interventions de cette même réunion d'information et d'échange. Bonne écoute.
Moi, je suis Pascal Roncette, je suis médecin ici à De La Fontaine. Donc, merci d'être venu aussi nombreux à ce rendez-vous qui vous a été proposé par un collectif de soignants sur l'AME, s'informer, savoir ce qui est la menace. On va commencer par une présentation du collectif par Sarah Piazza, qui est psychologue clinicienne ici à De La Fontaine. Sophie Dujeux, qui est également psychologue ici, va prendre la suite pour expliquer ce que c'est que l'AME. Et puis ensuite, deux intervenants, Guillaume Belon, coordonnateur du CASO de Saint-Denis, médecin du monde, Marianne Maître, bénévole à Médecins du Monde, au CASO également. J'ajoute pour finir qu'on est partenaire du Tour de France de la Santé et de la Semaine de la Folie Ordinaire. Bah, sans plus attendre, je passe la parole à Sarah Piazza.
Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous faire une introduction très rapide pour poser un peu le contexte et les enjeux un peu de notre rencontre aujourd'hui. Donc l'AME, qui est l'aide médicale d'État, permet aux personnes sans papiers réguliers en France d'être soignées et elle s'inscrit dans les grands principes concernant la santé qui sont rappelés par l'OMS. En 2019, il y a eu un rapport de l'IGAS, donc qui est l'Inspection Générale des Affaires Sociales et de l'Inspection Générale des Finances, c'est un rapport conjoint, qui a rappelé que, outre une obligation éthique, l'AME était nécessaire aux enjeux de santé et aux enjeux de dépenses publiques et qui a pointé à cette occasion le risque d'une réduction de ce droit. Garantir l'accès aux soins pour toutes et tous, y compris les populations les plus vulnérables, doit apparemment être rappelé, voire justifié. La population vulnérable concerne notamment les primo-arrivants, puisque les études montrent que plus de la moitié sont concernés par des problèmes de santé majeurs, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique. Depuis sa création, l'AME revient régulièrement dans le débat politique et médiatique, et je vais faire quelques rappels rapides. En fait, c'est beaucoup plus détaillé dans le document pédagogique qu'on a fait. Donc en 2002, il y a une tentative de suppression de l'AME. En 2011, il y a une restriction des professionnels pouvant instruire les demandes d'AME. En 2014, il y a une tentative de limiter et de réduire les soins pris en charge. En 2020, on impose la condition de résidence irrégulière de 3 mois, un délai de carence pour certains soins, et on impose le déplacement physique pour la première demande et pour le retrait. Enfin, au printemps dernier, un amendement porté par une sénatrice Les Républicains pour supprimer l'AME est posé au Sénat. Cette énième attaque et l'amalgame indécent entre la loi immigration et la santé des étrangers nous ont amenés à nous mobiliser. Cette mobilisation, donc, elle est venue de plusieurs personnels du CHSD. Et donc, on a décidé d'organiser dans un premier temps cette conférence pour pouvoir un peu rappeler les conditions de l'AME, ce que c'est, ce que ça permet. Et il nous a semblé tout à fait indispensable de faire intervenir des gens qui sont directement aussi concernés par la prise en charge de la santé des étrangers et des migrants. C'est pour ça qu'on a invité Médecins du Monde. Cette mobilisation de certains professionnels du CHSD, elle nous est d'autant plus nécessaire qu'on travaille à Saint-Denis et qu'on est tous et toutes concernés en tant que soignants par cette question de l'AME. Et Sophie vous fera un point un peu plus détaillé sur ce que c'est que l'AME au CHSD. L'idée aussi de cette conférence, après avoir comme ça un peu posé les bases pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'AME et comment elle nous impacte et comment elle nous aide à travailler, c'est de pouvoir ensuite ensemble, notamment avec les échanges qu'il va pouvoir y avoir après la conférence, réfléchir à quelle peut être la suite de cette mobilisation et est-ce qu'il y a des actions communes qui peuvent être pensées, notamment entre la ville et l'hôpital. Voilà, je laisse la parole à Sophie.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous faire un rapide topo sur ce que c'est que l'AME et ce que c'est pour nous au CHSD, au Centre Hospitalier de Saint-Denis. Donc l'aide médicale d'État, c'est un dispositif d'accès aux soins pour les personnes en situation irrégulière. On pourrait dire que c'est un genre de sécurité sociale, mais justement, ce n'est qu'un genre. Ce n'est pas exactement la sécurité sociale. Comme le disait Sarah, depuis sa création, les conditions, elles ont sans cesse été durcies. Aujourd'hui, il y a plusieurs critères. Il y a être en France depuis plus de trois mois, de façon continue et irrégulière, c'est-à-dire ne pas avoir de visa à jour, d'être rentré sur le territoire de façon illégale. Et tout ça, il faut pouvoir le prouver avec des pièces justificatives. Il y a aussi un critère financier qui est quasiment le même que la C2S, c'est l'ancienne CMU. Et l'AME n'est attribuée que pour une seule année. Donc les personnes doivent renouveler leur demande tous les ans. Comme je le disais, l'AME, ce n'est pas la sécurité sociale. Ce n'est pas le même panier de soins. Il y a des soins qui ne sont pas remboursés par l'AME, entre autres la procréation médicale assistée et les médicaments qui sont remboursés pour les assurés sociaux qu'à 15%. Il y a aussi d'autres choses, par exemple tout ce qui est lunettes, prothèses et tout ça. Il n'y a pas la part de la complémentaire qu'il y a dans la C2S. Autre différence de taille avec la Sécu, c'est que les bénéficiaires de l'AME n'ont ni numéro de Sécu ni carte vitale. Ça a vraiment un impact pour les professionnels de ville qui, en fait, sont obligés de faire beaucoup de paperasse et d'attendre très longtemps avant d'être remboursés, ce qui entraîne que beaucoup d'entre eux ont décidé d'arrêter de prendre en charge les bénéficiaires de l'AME qui n'ont pas d'autre choix que se tourner vers l'hôpital. Alors, une petite précision, quand on parle de l'AME au niveau budgétaire, on mélange deux choses. On parle et du dispositif de l'AME de droit commun, c'est ce que je viens de vous expliquer, et le dispositif de soins urgents et vitaux. C'est ce qui permet aux hôpitaux d'être remboursés des soins qu'ils avancent pour des personnes en situation irrégulière mais qui ne sont pas encore éligibles à l'AME. Les chiffres que je vais vous donner aussi, autre précision, datent de 2018. Alors, je sais que ça date un peu. C'est des chiffres qui sont comparables. Et ça permet d'éviter toute la crise Covid qui a quand même eu un impact assez fort sur les dépenses de santé. Donc, au niveau du budget, l'AME de droit commun, c'est 824 millions d'euros auxquels on rajoute les soins urgents et vitaux et on arrive à 904 millions d'euros. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'associations qui ont parlé du milliard le plus scruté des dépenses publiques. Alors, moi, personnellement, un milliard, ça me dit rien. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas dans mon budget habituel. Donc, pour vous dire, un milliard, c'est à peu près 0,6% des dépenses publiques de santé en France. Donc, on en parle beaucoup, mais c'est que 0,6% des dépenses. Le Covid, en comparaison, a coûté entre 70 et 200 milliards à l'État. Et sinon, un milliard, c'est aussi 5 Mbappé. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire que Mbappé est unique, mais voilà. Ou 12 Airbus A320. Alors, ensuite, je vais vous donner encore quelques chiffres pour parler des dépenses, en fait, par bénéficiaire et par an. Donc, pour les bénéficiaires de l'AME, donc les 318 000 bénéficiaires de l'AME, la dépense moyenne correspond à 2 675 euros. Alors que pour les assurés sociaux, c'est 3 087 euros. Donc les bénéficiaires de l'AME, en moyenne, dépenseraient 400 euros de moins que les bénéficiaires de l'assurance maladie. Juste si jamais, retenez ce chiffre, ça vous permettra de répondre quand on parle de surconsommation des soins pour les bénéficiaires de l'AME. Alors si vous êtes ici, c'est parce qu'en effet, l'hôpital de Saint-Denis s'est mobilisé, les professionnels de l'hôpital de Saint-Denis, parce qu'on est en effet dans un bassin territorial assez particulier. Notre hôpital recrute essentiellement des gens qui sont dans les territoires les plus précaires de France. Plus de trois quarts des patients sont issus des territoires qui sont les plus précaires. Ça a forcément, cette précarité, elle a un impact multiple sur notre prise en charge. Parmi les patients les plus précaires, il y a évidemment beaucoup de patients en situation irrégulière. Autre particularité, c'est que les bénéficiaires de l'AME ne sont pas homogènes dans toute la France. Plus de 50% sont situés en Île-de-France. Je n'ai pas les chiffres de la Seine-Saint-Denis, mais je pense qu'on est à des chiffres assez importants. Donc forcément, le centre hospitalier de Saint-Denis a cette particularité, et ça se confirme dans les chiffres, puisque si au niveau national, les établissements publics de santé ont à peu près 0,5% de leur séjour qui sont au titre de l'AME. Ici, à Saint-Denis, on a 7,6. Donc, on a une vraie spécialité. Si on rajoute à ces 7,6 les chiffres aussi des soins urgents et vitaux, on arrive à 9,2%. Ce chiffre, il veut vraiment dire que pour nous, l'AME, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel pour qu'on puisse s'occuper de nos patients, pour que l'hôpital puisse continuer à avoir des finances, et pour qu'on puisse apprécier notre travail. Je vous remercie.
Bonjour à tous. Je veux bien, si vous voulez, commencer peut-être par quelques mots sur qui nous sommes, Médecins du Monde. On est voisins, on est dans la même ville. Nous, on est du côté de la plaine. On a quand même cette particularité. Et peut-être quelques mots pour vous expliquer pourquoi Médecins du Monde en France, puisque quand on pense à Médecins du Monde, si on pense à la création de l'association, c'est ce bateau en mer de Chine à la fin des années 70 qui incite une partie des membres de MSF, mais aussi d'autres personnes à créer l'association. Et on pense à Médecins du Monde aujourd'hui, y compris là, pour les récents séismes ou pour l'intervention en situation de crise. En un mot, on reste une ONG dans le domaine de la santé. C'est important de tenir cette définition et de se demander ce que vient faire une ONG dans le domaine de la santé en France. On est implanté en France depuis 1986. C'est une date qui est importante aussi pour le sujet qui nous intéresse sur l'accès à l'assurance maladie et à l'assurance maladie pour tous. On est implanté à Paris d'abord et en Seine-Saint-Denis au CASO depuis 2004. Pour vous présenter notre CASO, notre centre d'accès, d'accueil, de soins et d'orientation, c'est 4 salariés, à peu près 50 bénévoles. Et pour continuer à faire parler les chiffres, après on leur fait dire ce qu'on veut, mais en gros, un accueil d'un peu moins de 4000 patients par année, entre 3500 et 4000, pour autant de consultations sociales et un peu moins de 3000 consultations médicales. Je m'arrête à ces deux chiffres parce que ça met en valeur les deux activités qui sont les nôtres, activité de soins, bien sûr, mais aussi activité d'accompagnement social. Et c'est celle-ci qui prend le pas. On est plus dans l'accompagnement social que dans le soin. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas un dispensaire. On n'a pas vocation à se substituer au droit commun. Et c'est vraiment le fil rouge de nos activités. Je pense que c'est important de le rappeler que dans le haut de CASO, l'orientation, c'est d'abord essayer d'orienter au maximum les personnes vers les structures existantes, dont De La Fontaine, qui est un partenaire de longue date, aussi un partenaire de lutte. On en parlera à travers des initiatives qui se sont appelées à un moment le collectif CEPAM 93, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certaines personnes dans la salle, qui vise là aussi à défendre le peu de droits existants. C'est pour ça que si j'avais à présenter les quelques mots qu'on va dire avec Marianne Maître qui est à côté de moi, c'est que oui, nous on défend l'AME, mais on veut qu'elle soit maintenue pour pouvoir mieux la combattre. C'est dit de façon un peu provocatrice, mais en tout cas c'est notre objectif en termes de politique et d'accès à une véritable couverture maladie pour tout le monde, sans ces distinctions que vous rappeliez. Un mot d'histoire sur l'accès à l'assurance maladie et l'émergence de l'aide médicale de l'État. On peut peut-être essayer de mettre en perspective ces dates. C'est vrai que 1993 reste une date clé dans l'accès à la santé, puisque la loi Pasqua, elle introduit quelque chose qu'on connaît bien maintenant, qui est le critère de résidence régulière pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'auparavant, un travailleur sans papier pouvait bénéficier de la sécurité sociale. Depuis 1993, c'est impossible. Pour autant, ce travailleur sans papier peut-il bénéficier de l'aide médicale de l'État ? C'est là où les choses se compliquent et où la réponse elle est loin d'être évidente. On ne va pas faire des exercices aujourd'hui pour connaître les critères, mais il faut se rappeler qu'on entre dans une complexité qui est savamment entretenue, qui désarçonne les travailleurs sociaux, qui désarçonne les assistantes sociales, les travailleuses qui essayent d'ouvrir des droits parce que on va avoir une multiplicité de textes qui vont organiser l'accès à la sécurité sociale, l'accès à l'aide médicale de l'État, l'accès à la C2S au moment où un certain nombre de droits sont suspendus. Et on est souvent bien désarmé devant les réponses qui apparaissent, qui sont les courriers de CEPAM qui disent si oui ou non telle personne a des droits. Et ça demande une vigilance qui phagocyte complètement le travail social. On est obligé d'être redresseur de tort d'une caisse primaire d'assurance maladie qui ne connaît pas les textes ou qui est prise elle-même finalement au piège de la complexité législative dans laquelle on a un petit peu englué, pour mieux la dissoudre, me semble-t-il, l'aide médicale de l'État. Ce repère 93, il est important puisque on impose la régularité de séjour sans forcément proposer de solution pour les personnes qui sont sorties de ce panier, qui sont les personnes en situation irrégulière. Ce qui fait dire que l'aide médicale de l'État, elle est vraiment, vous disiez, un genre de sécurité sociale. On peut dire qu'elle est une sécurité sociale au rabais pour les personnes qui sont pointées par ces différentes dates, qui sont les indésirables, qui sont les personnes sans papier. Et j'emprunte l'expression à Didier Maille, qui est travailleur social au COMED, et qui est que c'est un véritable purgatoire de l'AME. Et pourra-t-on en sortir ou pas une fois qu'on y est entré ? C'est toute la question. 1999, la CMU, c'est uniquement une réforme structurelle, mais ça permet de voir naître l'aide médicale de l'État en tant que telle. Et dans le document, vous avez aussi la genèse des différentes modifications qui sont quasi de l'ordre d'une par an ou tous les deux ans. C'est quand même une aide qui a une vingtaine d'années et qui a déjà connu énormément de dispositifs différents. Ceux que vous avez rappelés, ils peuvent peut-être permettre aussi de... tout simplement d'expliquer pourquoi aujourd'hui l'aide médicale de l'État, elle confronte les travailleuses sociaux qui essayent d'ouvrir des droits à une position qui est celle d'être une véritable police de la situation administrative des personnes. Vous rappeliez la nécessité d'avoir une preuve de présence pour justifier un séjour irrégulier de plus de 3 mois. Si on s'arrête sur ce que ça veut dire, on est quand même dans quelque chose... sinon d'aberrant, du moins de complètement délirant, on est obligé de traquer avec des personnes en situation irrégulière les preuves de leur présence. Sachant que, bien sûr, toutes ne sont pas acceptées et qu'on va donc devoir classer ces preuves pour essayer de justifier d'une présence sur le territoire. Et ça peut être très long, C'est-à-dire que quand il y a un délai de carence, parce qu'il faut justifier de 3 mois de présence sur le territoire, encore faut-il avoir la preuve. Et dans nos centres, au cas où, on voit passer des gens qui sont souvent là sur le territoire depuis 6 mois, 1 an, et pour lesquels ces 3 mois de présence en situation irrégulière ne vont commencer qu'à la date de leur passage chez nous, parce que nous pourrons éditer l'attestation de présence qui sera le premier sésame pour accéder à l'AME. Parce que l'autre condition, qui est particulièrement retorse quand on sait la vie qu'on réserve aux personnes sans papier sur le territoire, c'est une condition de domiciliation. Et là, elle est intéressante parce qu'elle pointe aussi les carences des services publics. Et si je les pointe et si je les nomme, c'est justement par amour du service public, pour rappeler ce qu'il devrait être et ce qu'on voudrait qu'on lui donne les moyens d'être. Une domiciliation, dans le Code d'action sociale des familles, c'est un droit à toute personne qui choisit de placer son intérêt dans une commune. La personne peut se rendre au CCAS, le Centre communal d'action sociale de la commune, et demander à recevoir son courrier dans ce centre pour une domiciliation. Dans les faits, le 93 est connu pour être, pour certaines des villes les plus peuplées, particulièrement hors la loi, en refusant quasi systématiquement les demandes de domiciliation. On est sauf, Saint-Denis est une commune exemplaire à ce titre. L'hôpital de La Fontaine a son propre service de domiciliation pour justement permettre d'ouvrir des droits, parce que sans domiciliation, aucune démarche ne peut être entamée. C'est la même raison pour laquelle nous, CASO, Centre d'accueil de soins et d'orientation, nous avons également une domiciliation. Pour les mêmes raisons, permettre de faciliter l'accès aux droits des personnes dont on sait qu'elles seront refusées dans tous les CCAS auxquels on pourrait les adresser. Ce qui veut dire pour nous des populations précaires parmi les précaires, notamment les personnes roms ou considérées telles, mais aussi des personnes, pour parler la langue du 115, en situation de rue sèche. C'est-à-dire non seulement des personnes en situation de rue, mais aussi qui sont sans aucune attache qui permettrait un hébergement très ponctuel dont on sait à quel point il peut soulager aussi la vie de ces personnes. Ça, c'est la deuxième condition, la domiciliation. Et puis, vous parliez de la condition de ressources, qu'on présente comme un plafond de ressources, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord une condition, là aussi. On exige que les personnes soient en mesure de justifier qu'elles ont des ressources sur le territoire. On parle toujours de personnes sans papier, donc a priori inéligibles au moindre emploi salarié. Mais c'est une condition de refus qui est très systématiquement utilisée par la CEPAM. Vous n'avez pas justifié de vos ressources. Et donc, c'est un aller-retour de courrier interminable où on demande à la personne de prouver qu'elle a bien des ressources pour résider sur le territoire, sans quoi l'aide médicale de l'État n'est pas accordée. Et l'autre effet pervers de cette condition de ressources, c'est qu'il y a un plafond qui est de l'ordre de 9 000 euros à peu près par année, mais qui veut dire qu'un travailleur irrégulier, et il y en a beaucoup, que ce soit travaillant par alias ou profitant d'une défaille, je pense à des personnes qui tout simplement utilisent les CESU pour être déclarés, un travailleur qui arriverait péniblement, parce que 9 000 euros, là encore, c'est une somme brute qui paraît plutôt importante, mais ramenée sur 12 mois d'une année calendaire, c'est quand même pas énorme, une personne qui serait au-delà de 9 000 euros de ressources, qui donc légalement et avec honnêteté attesterait de ses ressources auprès de la CEPAM, elle se verrait refuser les droits à l'aide médicale de l'État. Et pour rappel, 9 000 euros, on est en dessous du seuil de pauvreté. Donc on crée, au sein des précaires ou des indésirables, une catégorie particulière, ces personnes qui ont plus de 9 000 euros de ressources par an et pour lesquelles aucun panier de soins, aucun filet de sécurité n'est proposé. C'est pas une situation qu'on voit tous les jours au CASO. Notre public, c'est principalement des primo-arrivants ou arrivantes, des personnes exilées qui sont sur le territoire depuis peu de temps et qui n'ont sans doute pas tissé le réseau aussi d'aménité, de solidarité qui permet de trouver du travail. Mais c'est des situations qu'on voit et pour lesquelles on est désarmé, si ce n'est ce qu'on ne fera jamais à Médecins du Monde, de conseiller à la personne une fausse déclaration. Ce n'est pas notre mandat associatif, mais on voit bien que c'est ce à quoi la loi, finalement, contraindrait ces personnes. Et ce n'est pas négligeable de se souvenir qu'une loi, elle organise, elle met de côté une catégorie précise de population à laquelle elle refuse tout droit. Et puis, l'autre condition par laquelle on aurait pu commencer finalement, tellement elle est évidente, mais on finit par l'oublier, c'est qu'on parle d'une aide médicale de l'État pour des personnes étrangères, pour laquelle toute documentation n'est accessible qu'en français, pour laquelle il faut être en mesure de rédiger un CERFA, puisqu'on est dans l'administration, qui ne peut être rempli qu'en français. C'est un énorme travail qu'on mène, que vous devez mener ici dans les services sociaux aussi, j'imagine, à De La Fontaine, de rendre accessible l'information pour les personnes, de se substituer à ces personnes quand il faut rédiger le formulaire en français, et de savoir qu'il n'est pas prévu par la CEPAM de mise à disposition d'une note, d'une explication dans une autre langue. Je rappelle que les messages d'alerte pour la fermeture des portes dans le métro sont au moins dans trois langues. Et qu'ici, rien n'a été prévu, c'est-à-dire que sans céder à ma paranoïa naturelle, on est obligé de reconnaître que tout a été organisé pour rendre plus difficile l'accès des personnes à l'AME. Que ce filet de sécurité, cette protection minimale, elle est aussi une chasse gardée pour laquelle on fait en sorte que les personnes aient le moins d'accès possible. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point, Marianne ?
Par rapport au 93, par exemple, il y a une seule agence pour tout l'ensemble du département pour aller déposer sa demande d'aide médicale. Et une première demande d'aide médicale doit obligatoirement être déposée en présentiel, c'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous. Comment prend-on rendez-vous ? Ben, on appelle le 3646 qui ne répond jamais. Ben, on n'a pas accès non plus à la plateforme pour laquelle, théoriquement, on veut prendre un rendez-vous. Donc voilà, donc il faut se débrouiller, il faut appeler ce numéro 3646 qui est un numéro payant, je le rappelle. Donc les gens qui n'ont pas de téléphone et qui n'ont pas de moyen de charger leur téléphone, ils sont tous les jours, trois fois, quatre fois dans la journée, pendant 45 minutes, à essayer d'avoir le 3646 avant qu'ils décrochent. Dès que vous prononcez le mot AME au téléphone, ça coupe. Juste un petit exemple, pourquoi dans le 93 c'est encore plus compliqué. Il faut savoir que tous ces documents, toutes ces démarches qui sont demandées, sont propres à chaque département. Tous les départements ne demandent pas les mêmes papiers, n'acceptent pas les mêmes solutions. Et donc, l'un de nos travaux à Médecins du Monde, c'est de mettre à jour en permanence les exigences des différentes caisses et d'orienter au mieux les personnes en fonction de l'adresse qu'elles vont peut-être réussir à avoir, des papiers qu'elles arrivent à produire, qui vont être acceptés à droite mais pas à gauche, etc., etc. C'est vraiment un parcours du combattant. Pour nous, bien sûr, mais nous, finalement, on l'a choisi, hein, bénévole, c'est notre job, voilà. Mais les gens qui essayent vraiment de faire cette démarche-là, c'est compliqué. En plus, le jour où on dépose sa demande, l'année commence. Le décompte de l'année commence. C'est-à-dire que les personnes vont mettre 2 mois, 3 mois à avoir une couverture maladie, avec des allers-retours entre la Sécurité sociale pour des demandes complémentaires complètement farfelues. On va, par exemple, demander aux personnes pourquoi elles sont parties de leur pays, fournir des fiches de salaire de leur pays. Imaginez ce que représente une fiche de salaire du Sénégal, par exemple. Comment l'agent de la Sécurité sociale va la lire et comment elle va le comprendre, ça, c'est un peu un mystère. Donc, toutes ces démarches sont compliquées et le décompte commence. Et il faut savoir qu'un an après, il faudra refaire cette demande. Et il faudra refaire cette demande un an après, effectivement, mais 2 mois avant, pour avoir le temps d'obtenir la nouvelle carte aide médicale et tout. Et c'est pas parce qu'on l'a eu une première fois qu'automatiquement on va l'avoir la seconde fois. Il faut tout recommencer.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. Tarbé d'un embarcadère ensoleillé au départ, une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar. Celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à cingler leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elle garde en elle, ces séquelles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure un fils parti gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, emportant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles, pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, te prennent un quart de siècle mon aîné. Dire qu'en 62, des ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre, il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Et nous poursuivons l'écoute de cette rencontre qui se tenait le 26 septembre 2023 à l'hôpital de La Fontaine. Et c'était une réunion d'information et d'échange sur l'avenir de l'aide médicale d'État.
Je vais vous présenter maintenant rapidement les conclusions d'une enquête qu'on a initiée au début de l'année 2023 au sein du collectif CEPAM 93, tel était son nom à l'époque, il a changé depuis, parce que tout évolue. Une enquête qui a été menée par quatre associations, Médecins du Monde bien évidemment, mais aussi l'ACIMAD, le COMED et le Secours catholique du 93. Le point de départ de cette enquête, c'est tout ce qu'on vous dit là, qui est le quotidien des travailleuses sociaux, bénévoles ou salariés, c'est comme ça que je les engloberai, hein, dans tout cet accompagnement nécessaire pour l'ouverture des peu de droits de l'AME. Et le point de départ, c'est que, Marianne l'a dit, selon que vous êtes dans le 75, le 78, le 93, le 95, bref, les règles pour avoir accès à l'AME ne seront pas les mêmes. Ça pose un vrai problème quand on sait la facilité avec laquelle le même État va déplacer les populations, puisque le 115, depuis le début de l'année, a perdu le critère départemental pour un critère d'Île-de-France. Vous demandez un hébergement d'urgence, vous pouvez être envoyé dans le 78. Là, vous êtes mobile et il faut l'être, sinon vous perdez votre place. Vous avez la journée pour vous y rendre. Par contre, si vous êtes domicilié dans le 75, il faut bien connaître les règles précises pour présenter son AME dans le 75, parce qu'elles ne sont pas les mêmes que dans le 93, tant les départements sont limitrophes. On est face à cette complexité pour laquelle on a voulu savoir si l'information était à la hauteur. Pour ça, on a les sites internet des agences, de chaque CEPAM. On a, Marianne l'a dit, le 3646, le numéro qu'on connaît bien, numéro unique hein, pour tout assuré social. Et puis, il y a aussi les rendez-vous, quand on peut en avoir, dans les agences. Le constat, il met en avant quatre défaillances majeures qu'on a documentées, on les connaît, mais ça nous a au moins permis de les objectiver. Je vous dirai après ce qu'il en est ressorti quand on a transmis nos résultats à la CNAM et puis à la CEPAM. La première conclusion, c'est la complexité inutilement ardue de ce dispositif qui est génératrice d'erreurs pour la CEPAM elle-même, pour les accompagnateurices sociaux, pour les personnes, et qui fait que le taux de non-recours à l'AME, est-ce qu'on peut se fier à ce chiffre, est-ce qu'il n'est pas sous-évalué, c'est quand même de 50%. Une personne sur deux qui pourrait avoir accès à cette aide médicale de l'État finit par ne pas le demander ou par se décourager au milieu du chemin, parce que c'est la troisième demande, parce qu'il faut à nouveau fournir des pièces, photocopier toutes les pages d'un passeport et les photocopier en couleur, parce que sinon on va contester le numéro des pages qui est inscrit au poinçon dans le passeport. Voilà par exemple les difficultés dont on hérisse le chemin jusqu'à l'AME. Ça c'est la première des complexités. qui génère beaucoup de dysfonctionnements et qui, en plus, prend l'État au piège de sa propre logique comptable. Je rappelle que s'il y a autant de règles différentes, ça veut dire que les agents des CEPAM doivent être formés. Ça veut dire que derrière, on a une machine qui se dévore elle-même à force de rendre compliqué le peu qu'elle accorde aux étrangers. La deuxième, c'est pas une révélation, mais c'était bien de l'objectiver, c'est cette dynamique que je dirais départementalo-dépendante qui devient délirante à l'heure des déplacements en Île-de-France, qui rend notamment quelques chiffres. Le 93, qui est le département dans lequel résident le plus de personnes qui demandent l'aide médicale de l'État, a choisi d'appliquer de la façon la plus stricte la loi de 2019-2020, le temps qu'elle soit mise en application. Une seule des 12 agences de la CEPAM permet qu'on y dépose son dossier et qu'on vienne y retirer sa carte. L'agence de la Courneuve, qui est bien connue du coup maintenant hein, quand on accompagne pour l'AME, est la seule dans laquelle on puisse faire ces démarches. Dans d'autres départements, le 95, alors il est vaste le 95, mais c'est 3 agences. Dans le 78, c'est les 12 agences départementales qui permettent le même accès aux services. Pourquoi une telle réduction quand on connaît aussi l'embolie que ça peut créer auprès des personnels de la CEPAM? De la même façon, les critères changent, le nombre de preuves à donner n'est pas le même, etc. Le troisième défaut principal, la complexité, le scandale, on pourrait même dire, c'est l'aberration en termes de santé publique. On crée une catégorie d'usagers du système de soins qui n'est pas un assuré social et qui donc, alors vous l'avez dit, n'a pas la possibilité d'une télétransmission, donc on engorge les systèmes publics du type CMS ou urgence parce que les personnes se voient refuser un rendez-vous auprès d'un médecin de ville qui n'accepte pas qu'il lui faille attendre le remboursement. Et puis aussi parce que ces personnes, elles échappent à tous les radars, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans les cohortes qui peuvent être appelées pour les campagnes de vaccination, pour les campagnes de prévention. Et on l'a bien vu au CASO en 2020, au moment du vaccin pour le Covid, comment on oriente des personnes dont personne ne veut dans le système de soins classique. Alors on avait des rendez-vous qui étaient à la journée au Stade de France. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire d'un tel système à deux vitesses? La réponse, elle est évidente, c'est non. Et c'est contre ça aussi qu'il faut se battre, en sachant que on s'adresse, quand on parle de l'AME, aux personnes que leur vie précaire, leur condition de vie précaire, expose le plus à une santé dégradée. Contre le fantasme et l'idéologie qui est colporté par beaucoup de médias d'un tourisme médical qui ferait que ce seraient des personnes malades dans leur pays d'origine qui viendraient se faire soigner en France, on entend même se faire refaire les seins. Enfin, quand on parle d'un panier de soins dans lequel l'opération de la hanche est exclue, évidemment que la chirurgie esthétique, tout comme elle n'est pas accessible à un assuré social de droit français, elle ne l'est pas pour quelqu'un qui bénéficie de l'AME. Mais ce qu'il faut garder en tête en revanche, c'est que les conditions de vie des personnes précaires, qui vous diront quand elles exposent leur récit, qu'elles découvrent aussi ce qu'est la précarité à laquelle elles ne s'attendaient pas en arrivant sur le territoire français, ces conditions les exposent le plus à une dégradation rapide de la santé pour laquelle il faudrait à minima un panier complet et une couverture à 100%. C'est ça le paradoxe de santé publique qui fait aussi que dans notre enquête, un chiffre qui est rappelé dans le 4 pages que vous avez à disposition, 64% des personnes que nous avons interrogées qui n'arrivaient pas à accéder à l'AME ou qui attendaient que la carte leur soit délivrée, 64% de ces personnes ont renoncé à un soin. Et devant un parterre de professionnels de la santé, je ne vous rappellerai pas ce que coûte le retard de soins en termes de complications, de nécessité d'avoir appel à un plateau beaucoup plus lourd, etc. Et 7 personnes sur 10 donc, qui renoncent à un soin pendant la période de carence du fait de la longueur d'obtention ou d'un premier refus par-delà lequel les personnes vont rarement. On vous dit non une fois pour l'AME, il est rare que les personnes s'entêtent. Et puis, le dernier des défauts majeurs de l'AME, tel qu'on la connaît aujourd'hui, vous le connaissez ici, et c'est ce qui nous alerte le plus, nous, parce qu'il se cumule à toutes les défaillances des services publics derrière, c'est l'engorgement de l'hôpital, qui reste notre seule porte, nous, d'orientation, quand on est face à des situations complexes dans nos locaux, au CASO, et on est bien conscient qu'on est face à une orientation qui est très dangereuse à court terme, pour ce qu'est l'hôpital public aujourd'hui, aux côtés duquel, bien sûr, on est engagé. Oui, on se bat aujourd'hui, depuis cette déclaration sénatoriale de risque de transformation de l'AME en AMU, en aide médicale d'urgence, dont on ne sait pas trop si ce serait l'équivalent du DSUV, ou en tout cas dont on a bien retenu que la proposition qui pourrait être acceptée, c'est que ce soit soumis au paiement d'un timbre fiscal, voilà, histoire de réduire encore une fois l'accès aux soins. Eh bien, nous, on veut que l'AME, bien sûr, dans ces conditions-là, on veut qu'elle reste, mais notre premier combat, c'est qu'on en arrête avec ce système à deux vitesses. Sécurité sociale d'un côté, AME de l'autre. On est Médecins du Monde aux côtés d'autres associations, aux côtés de la Défenseure des droits et de toutes les personnes qui s'impliquent un peu dans le sujet pour l'abolition de l'AME au profit d'une réouverture des droits à la sécurité sociale. Un seul système, sans différence, hein, sans création de tous ces publics. On unifie, et si possible pour une fois par le haut, c'est-à-dire en assurant 100% de prise en charge, mais aussi en faisant en sorte que pour toute personne sur le territoire français, on arrête le restant à charge, le restant à payer, qui est un vrai frein pour les politiques de santé publique, pour l'accès à un soin de qualité. Et ça fait partie de nos revendications. Une couverture maladie universelle, elle a été possible, je le disais, jusqu'en 93, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On parlait déjà de la dette de la sécurité sociale, et on sait que c'est en son nom souvent qu'on se permet ces acrobaties-là. Elle est possible dans d'autres États autour de nous, dont je ne sache pas qu'ils connaissent l'argent magique. Je pense à l'Espagne, qui depuis 2018 a fait marche arrière, avait connu, comme nous l'avons connu et comme beaucoup d'États en Europe, une réduction progressive des conditions d'accès à l'assurance maladie et a choisi de revenir à une assurance maladie pour tous. On sait que c'est possible, on ne mesure que trop bien les effets que ça pourrait avoir en termes de santé publique, et c'est pour ça, je le disais, que oui, on défend l'AME aujourd'hui, mais pour mieux la combattre demain.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle?
Bonjour, je m'appelle Martine Lalande, je suis dionysienne, mais j'ai été médecin dans le 92 à Gennevilliers. Et nous, on avait un système qui fonctionnait très bien sur la base d'un réseau ville-hôpital qui existait depuis très longtemps et qui s'occupait d'accès aux soins. Alors moi, je faisais une consultation à un moment d'accès aux soins dans une maison de la solidarité, donc une maison d'accueil de jour type Abbé Pierre. Et on voyait les gens qui avaient une plainte. On les adressait au réseau qui les aidait à récupérer l'AME. Et entre-temps, on les adressait aux médecins de la ville qui les soignaient et dont les consultations étaient payées par le réseau en attendant que les gens aient des papiers. Et ça fonctionnait très bien. Ça veut dire que les gens du réseau Ville-Hôpital avaient démarché auprès de tous les médecins de la ville et que tous les médecins acceptaient d'accueillir les gens comme ça et accueillaient l'AME du coup. Je suis un peu étonnée quand vous dites qu'à Saint-Denis, les médecins de ville n'accueillent pas les gens qui ont l'AME parce que, ok, c'est des papiers à remplir, mais c'est pas la mort non plus. On est payé quand même au bout d'un moment. Et là, ça fonctionnait très bien, à tel point que maintenant, ce réseau est devenu passe ambulatoire. C'est-à-dire que, en fait, disons, c'est une passe qui fonctionne en ville. Donc, ouais, je suis un peu étonnée que, d'une part, les centres de santé et d'autre part, les médecins de ville ne jouent pas le jeu. Et peut-être qu'il y a un travail à faire pour aller les voir et leur expliquer comment fonctionne le système.
Alors, Saint-Denis a quand même une particularité, c'est d'avoir 4 passes de ville. Ce sont des CMS qui fonctionnent comme la passe hospitalière, avec un personnel pluridisciplinaire, avec des spécialités, et une assistante sociale qui va se charger d'aider la personne à avoir le dossier d'aide médicale. Ça n'empêche qu'il faut quand même avoir les preuves de présence, avoir un passeport, il faut savoir lire. On n'a pas parlé de ce joli sujet des visas. Lire un visa pour savoir si la personne est éligible à l'aide médicale d'État, il faut une vraie formation. C'est pas suivant si le passeport est de Schengen, mais si la personne est rentrée en Espagne, s'il est un visa espagnol et pas Schengen. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc oui, les passes de ville, ça fonctionne en Seine-Saint-Denis, il y en a pas mal dans l'ensemble, hein, c'est là où il y en a le plus, mais je crois qu'il y en a aussi à Marseille. Nous, on est très militants de ce côté-là, on est prêts à accompagner les municipalités qui voudraient se lancer là-dedans, en sachant que en Seine-Saint-Denis, il y a quand même un coût qui est énorme, parce que beaucoup de patients c'est comme pour l'hôpital, il y a beaucoup de patients qui sont dans cet état de précarité. Les médecins à Saint-Denis, ben, il n'y en a plus beaucoup de médecins généralistes. Donc déjà, ce sont des médecins, je crois qu'il y a aussi ce phénomène de la santé publique complète sur tout le territoire, c'est que moi, quand j'ai changé de ville, quand j'ai voulu avoir un médecin traitant, j'ai été obligée d'en avoir 5. Les médecins ne veulent pas de nouveaux patients. Donc quand en plus ce sont des patients qui vont être un petit peu plus compliqués, il y a la langue déjà. La plupart de nos patients ne parlent pas français. À l'hôpital et chez nous, on utilise l'interprétariat professionnel par téléphone. Dans les CMS, on utilise cet interprétariat, qui n'est bien sûr pas utilisé à la CPAM1. Vous allez à la Courneuve, jamais ils prendront. Ici, ils ont un Google Trad. Je ne sais pas qui s'en sert, mais voilà, ils ont un petit Google Trad pour aider les gens à remplir leur dossier. Il y a des initiatives qui sont performantes, qui fonctionnent bien, mais il faut les développer. C'est un coût pour les municipalités. Dans le 93, les municipalités sont déjà un peu engorgées par toutes les aides sociales, par toute l'infrastructure qu'elles apportent aux personnes en situation de précarité. On aimerait bien qu'il y en ait partout, mais on comprend aussi qu'il y a des choix à faire toujours et que voilà, c'est un combat incessant et c'est des initiatives à soutenir. Une politique de santé digne d'un pays comme la France, ce serait quand même le minimum.
Moi, je voulais juste élargir un tout petit peu le débat pour parler donc du non-recours. Donc, on est tous à notre santé en danger. Je pense que le premier carton rouge, puisque ce collectif a décidé d'attribuer des cartons verts et des cartons rouges, le premier carton rouge, à mon avis, qu'il faudrait décerner, qu'il faudrait expédier là-haut. Je dis là-haut parce que vraiment, ils sont tous là, ils sont vraiment là-haut et ils ne voient rien à ce qui se passe en bas. Vous voyez de qui je parle. C'est le non-recours. Le non-recours, donc, à l'aide médicale État, ça a été dit tout à l'heure, il est à 49%. Mais le non-recours, ça touche aussi la C2S, puisque pour la C2S gratuite, il est de 32%, et pour la C2S payante, il est de 78%. Donc là, on voit les économies, les milliards d'économies que fait l'État sur ces deux structures, aide médicale État et C2S. Tout à l'heure, donc, on a parlé du milliard que coûtait l'aide médicale État, mais là, vous vous rendez bien compte que les économies sont considérables. Et au lieu de parler de fraude, puisque chaque année, ça revient, on en a parlé également, hein, puisque chaque année, il y a des dégradations, il y a des remises en cause, etc. Et à chaque fois aussi, on met en cause donc la fraude. Donc, ce n'est pas de la fraude dont il faut parler, c'est du non-recours. Il y a des institutions comme, par exemple, le Conseil économique, social et environnemental qui a demandé la fusion aide médicale État et CMU donc à l'époque, ce qu'on défend évidemment depuis toujours. Vous avez également le Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui, en 2011, a demandé la fusion. Vous avez aussi les rapports de l'IGAS qui sont assez significatifs sur la question donc de l'aide médicale État, ça a déjà été rapporté. Donc, en fait, nous, on continue donc de proposer la fusion aide médicale État et donc C2S, mais au-delà, je pense qu'il faut penser à une sécurité sociale pour tous, sans distinction, comme elle existait donc en 45, comme elle existe aussi en Alsace, il y a une sécurité sociale très particulière donc en Alsace. Et avec, donc, en attendant, la suppression de toutes les limitations donc, qui existent, à savoir donc les délais de carence, les forfaits, les dépassements d'honoraires. Donc il faudrait un grand débat démocratique avec ce collectif qui se met en place, puisse émerger de façon à ce qu'on remette en cause la sécurité sociale actuelle avec les dérives, les privatisations à outrance. Moi, je suis dans le libéral toujours actuellement. Et je m'aperçois effectivement, mais je ne suis pas le seul, les syndicats de médecins aussi le soulignent, qu'il y a une privatisation à outrance. Vous avez des groupes comme Ramsay qui s'implantent progressivement, qui profitent des déserts médicaux et où pour les faire donc une médecine donc qui ne peut être accessible que pour les personnes qui peuvent payer les dépassements d'honoraires. Le sujet, c'est l'aide médicale État. Mais je voulais juste souligner que l'aide médicale État, c'est un des combats de notre santé en danger. Et qu'il y a un débat plus global à mener pour une transformation de notre système de soins. Je vous remercie.
Juste rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. L'aide médicale d'État est un problème parmi d'autres, et ça a été dit. Hein. Sur une ville comme Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, la question de la médecine de ville, la question de l'état des hôpitaux, rend compliqué le soin de la population globalement, mais de la population la plus fragile, la plus précaire, parce que c'est celle-là qui vit dans nos quartiers. Et là, c'est très bien, il y a du monde, mais on fait quoi après? Il faut absolument, enfin, cette initiative s'inscrit dans le Tour de France pour la santé. Il faut qu'on ait une étape locale à Saint-Denis et qu'on l'entérine sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette un stop et qu'on arrête de se faire définir nos besoins, j'allais dire socio-sanitaires, par le haut, par des chiffres, par des courbes arithmétiques qui sont pseudo-rationnelles, mais qu'on définisse démocratiquement nos besoins sanitaires, nos besoins sociaux, c'est-à-dire avec les professionnels, mais aussi avec les usagers, et ça peut partir que sur du local. On l'avait fait, ça fait quelque temps, c'est-à-dire on avait lancé un collectif, on l'avait appelé Santé, mais peut-être qu'il faudra trouver un autre terme, sur la ville, pour s'ouvrir aux habitants, aux associations, qui est bien sûr aussi des professionnels, mais qu'on s'ouvre à la ville pour trouver un espace démocratique. Je ne sais pas si ça peut se faire, mais en tout cas, si on a la force, ça serait bien. Enfin, il faut qu'on en discute, enfin, si vous trouvez ça opportun.
Bonjour, Mathieu, médecin du Monde également. Je voulais inviter Guillaume peut-être à redévelopper et à compléter peut-être ta présentation qui était déjà très exhaustive sur les réponses de la CEPAM 93 et les réponses de la CNAM. Parce que je trouve que c'est assez intéressant, en fait, effectivement, de voir à quel point, en fait, malgré la documentation, malgré cette recherche, en fait, aujourd'hui, on reste devant des portes fermées. Et donc, je veux bien que tu développes un petit peu. Et je ne peux m'empêcher d'évoquer mes inquiétudes. Tu évoquais tes paranoïas. Moi, je vais évoquer mes inquiétudes. Mais avec le parcours que vous décrivez et l'ensemble des process et procédures et documents à remplir pour les populations les plus précaires que aujourd'hui Médecins du Monde appuie, je suis obligé de partager mes inquiétudes sur l'impact des Jeux Olympiques à venir aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, mais plus généralement sur tout le territoire français et l'Île-de-France en particulier, puisque dans le parcours des personnes précaires qu'on accompagne, elles sont de plus en plus obligées de changer de lieu de vie au gré des expulsions, des fermetures de squats, au gré de répression policière pour les personnes vivant à la rue. Et nous, on est très, 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 très inquiets puisque la question va se poser en fait sur le parcours de vie de ces personnes. Et aujourd'hui, vu les difficultés qu'on constate dans le 93, je ne peux qu'être inquiet de la suite à venir.
Pour donc les résultats de l'enquête, je rappelle une enquête interassociative qui avait été menée à l'hiver 2023, donc entre janvier et mars, dont les résultats avaient été publiés en avril. Résultats qui, dans un processus de dialogue qu'on aurait aimé renouer avec la CEPAM 93, avaient d'abord été transmis aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Île-de-France, ainsi qu'à la CNAM, qui est leur autorité de tutelle, afin de dire, bah, voilà ce qu'on a sous le coude, en gros. C'était pas du chantage, mais c'était vraiment de la façon la plus cordiale. Avant que nous publions tout ça, retrouvons-nous autour d'une table pour en discuter, puisque les faits étaient quand même assez en défaveur du 93 sur tous les éléments que j'ai pu indiquer tout à l'heure. Il faut reconnaître que le silence de la CEPAM 93 est assourdissant et que c'est un cas d'école de non-volonté de dialogue au point qu'on a fini par rencontrer avec les associations qui avaient participé à cette enquête la CNAM, donc l'autorité de référence, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est obligée de reconnaître qu'elle peut donner des directions, des orientations, mais qu'elle n'a pas autorité sur les décisions qui sont prises dans la gestion concrète, matérielle, de ce qu'on appelle, dans cette langue très barbare du management, le back-office, c'est-à-dire comment sont traités les dossiers une fois qu'ils sont analysés par la CEPAM. Donc on était dans ce dialogue de sourds, qu'on n'a toujours pas avancé, qu'on pourrait penser que cette enquête, c'est un coup d'épée dans l'eau. Elle se court-circuite aussi un peu avec les déclarations qui n'ont été que dans une surenchère hein, de débat autour de l'AME. Et rappelons-le, parce qu'elle en avait un petit peu plus, elle nous en a mis aussi, hein, Véronique Louvagier, qui a rédigé le rapport parlementaire sur non seulement la transformation de l'AME en AMU, en aide médicale d'urgence, mais également la dérive des coûts liés au séjour pour soins. Quand on sait aujourd'hui la reprise en main du ministère de l'Intérieur sur le séjour pour soins, qui ne dépend plus du ministère de la Santé, mais de l'Intérieur uniquement, et quand on sait la difficulté, le véritable parcours du combattant, pour y compris des personnes atteintes d'une ALD qui est reconnue dans leur pays d'origine et qui ne peuvent pas, depuis le pays d'origine, demander l'asile pour soins, mais sont obligées de venir avec une assurance maladie privée pour faire valoir leur droit à une prise en charge. Quand on sait la légèreté avec laquelle les médecins de l'administration vont considérer que pour le cas des personnes vivant avec le VIH, un traitement est disponible dans la capitale du pays et que donc, qu'importe la distance de cette capitale, le prix du traitement, on n'accordera pas le séjour pour soins. Il y a quand même quelque chose qui peut nous inquiéter au-delà des facteurs de santé publique, hein, aussi sur un plan éthique, de ce qu'on doit à une personne en tant que c'est un être humain. Sans monopoliser le micro, je vous promets qu'on n'a pas répété avec Mathieu, même si on vient du caso tous les deux. Ce que tu pointes sur la sécurisation à outrance du 93, vous l'avez vu, hein, les soirs de match du mondial de rugby, il ne s'agit pas de se promener aux alentours du Stade de France. Nous, on est dans le périmètre de sécurité du Stade de France. On est dans la zone rouge. Alors bien sûr, là, on parle dans le flou qui est entretenu par la préfecture, puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'il en sera pour les JO. Mais on voit aujourd'hui les effets. On sait que les salariés de vente privée, dont le siège est juste à côté de notre centre, autour de l'avenue du président Wilson à la Plaine, ben ces salariés ont, elles et eux, déjà reçu une demande d'être en télétravail obligatoire pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Est-ce que nous, on y échappera peut-être ? Parce qu'après tout, on ne fait pas peur à grand monde, hein, les quelques salariés bénévoles du CASO, mais ça pose la question du déplacement des personnes. On est inscrit dans une histoire aussi des migrations, où beaucoup de personnes savent que, dans leur trajet d'exil, venir à Médecins du Monde, ça peut être une porte d'entrée vers le soin, parce qu'il y aura une preuve de présence, parce qu'il y aura une orientation, y compris vers l'hébergement, l'accueil de jour, etc. Mais ces personnes, elles traversent toute l'Île-de-France en prenant les risques qui vont avec. Elles peuvent le faire aujourd'hui. Est-ce qu'elles pourront le faire à un moment où il faudra un laisser-passer pour entrer dans le périmètre, à un moment où une loi d'exception en appelant une autre, même un agent de la RATP pourra demander des papiers d'identité et donc vérifier la régularité du séjour? On n'en est pas sûr. Et ce qu'on voit sur l'éclatement des bidonvilles dans le 93 ces dernières années, ce que pudiquement l'État appelle la résorption, qui veut juste dire en fait l'invisibilisation des lieux de vie informels des personnes, ça rend considérablement plus compliqué le travail associatif. C'est pas la même chose d'avoir le confort qu'on a, si je puis me permettre le mot confort, hein, je parle sous l'autorité de notre cadre associatif, mais de voir des personnes venir jusqu'à nous, plutôt que d'être dans une logique d'aller vers. Et quand on sait la diversité des parcours et des profils des personnes, comment on touchera ces personnes si on ne peut plus les laisser venir à nous? On est obligé de se poser la question. Et je pense que pour l'hôpital, ce sera la même chose ici, sans parler des appels à venir renforcer les hôpitaux, cliniques privées qui vont naître pour toutes les personnes dont on n'a pas vraiment anticipé la présence sur le territoire.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrig à Montpellier, Canastule à Toulouse, avec bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur
Radio Primitive.